Voilà, nous sommes toujours dans l'émission Plus de Fraternité en partenariat avec la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais. On va parler à présent d'une initiative du Secours populaire du Nord avec Clémence Guérard qui est chargée de mission pour le Bibliobus. Bonjour.
Bonjour.
Alors pour vous, pourquoi avoir créé ce Bibliobus ?
Alors en fait, c'est un projet qui a été mis en place suite à un partenariat avec une entreprise japonaise qui a offert le Bibliobus au Secours Populaire pour le remercier d'avoir apporté son aide, notamment des aides humanitaires, au Japon après la catastrophe de Fukushima en 2011. En fait, dans les régions dévastées du Japon, l'entreprise a mis en place des bibliobus pour pallier au manque de bibliothèques suite à la catastrophe. Et comme ça avait très bien marché, ils ont eu l'idée d'implanter ce système en France et dans le Nord.
Alors, quel public visez-vous avec ce bibliobus ?
Donc, on vise un jeune public éloigné de la lecture, donc on va dire de 3 ans à 18 ans, parce que c'est un bibliobus jeunesse, en fait.
Alors, comment choisissez-vous vos lieux d'intervention avec le bibliobus ?
Bah, déjà, en fonction de ces critères, donc il faut qu'il y ait des jeunes, et qu'ils soient éloignés justement de la lecture. Donc on s'oriente plus vers les enfants qui rencontrent des difficultés d'accès à la lecture, par exemple où il n'y a pas de bibliothèque dans leur ville ou leur quartier. On intervient notamment dans un quartier de l'Anversar où il n'y a vraiment rien, et pareil sur Wattignies. Et on a aussi des structures qui nous contactent d'elles-mêmes, qui ont eu connaissance de notre projet par le bouche-à-oreille.
Alors, sur certains lieux, hein, Clémence Guérard, vous n'intervenez pas directement, mais par l'intermédiaire d'autres associations. Pourquoi ?
Bah, tout simplement parce que c'est pas possible. Par exemple, sur le camp de Rome sur lequel on intervient, on ne peut pas s'inviter comme ça. C'est comme si on entrait chez les gens, en fait. C'est un peu un manque de respect de leur vie privée. Il faut absolument être introduit par une association. Donc nous, c'est l'association EPI qui nous a introduit dans ce camp. Après, il y a aussi la REAS qui s'occupe aussi beaucoup des Roms. En plus, il faut savoir quelle est la situation dans le camp avant d'y aller. Et puis, s'il y a des enfants, on peut pas entrer comme ça dans le camp par nous-mêmes.
Comment réagissent les enfants à votre venue, notamment ceux qui ont très peu accès à la lecture ?
Bah, ils sont assez enthousiastes. On essaie de créer un moment de convivial autour de la lecture, que ce ne soit pas trop scolaire.
Mmh. Quels sont vos constats à la rencontre de ces enfants ? Est-ce qu'il y a par exemple beaucoup de situations d'illettrisme chez certaines populations, dans certains quartiers ou dans certains camps ?
Illettrisme, le mot est peut-être un peu trop fort.
Un peu fort, oui.
Les publics avec lesquels on travaille principalement. On parlera davantage de publics éloignés des institutions du livre, où l'accès est moins facile, donc où il n'y a pas de bibliothèque dans le quartier, ou alors où le public ne se sent pas forcément légitime, alors que ce n'est pas du tout le cas dans la réalité.
Comment est perçue votre action par les populations que vous rencontrez, précisément les parents, les proches des enfants que vous accueillez ? Est-ce que vous arrivez à le savoir, ça ?
Bah, elle est plutôt bien perçue, on va dire. On parle un peu avec les gens et... Bah, on trouve qu'ils sont ravis, en fait, qu'on vienne dans leur quartier. Ça met un peu d'animation et ça permet aussi d'emmener les enfants vers le livre tout en créant un vrai moment de partage. Et puis, comme c'est le livre qui vient aux gens, ça permet de créer un rapport de proximité. Pour eux, le bibliobus est un premier pas vers la bibliothèque.
Est-ce que ce dispositif de bibliobus est amené à être étendu par le Secours Populaire Français ? Parce que là, vous fonctionnez surtout sur la métropole lilloise. Hein ?
Oui, c'est ça. On fonctionne sur la métropole lilloise, mais c'est difficile d'étendre le projet plus loin parce que on a déjà beaucoup de sorties. Et comme nos interventions durent entre 1 ou 2 heures, voire parfois 2 heures et demie, on peut pas faire 1 heure ou 2 heures de route. Ça nous limiterait. On devrait intervenir sur moins de quartiers, moins de structures. Donc pour nous, c'est plus simple de rester sur la métropole lilloise.
Mais est-ce qu'on pourrait, par exemple, imaginer d'autres bibliobus dans d'autres secteurs géographiques de la région ?
On pourrait imaginer, bien sûr. Après, c'est vraiment ça devrait être, je pense, l'initiative des secours populaires locaux.
Merci Clémence Guérard d'avoir répondu à nos questions. Donc je rappelle que vous, travaillez donc au sein du Secours Populaire Français et que vous êtes chargée de mission pour le Bibliobus. Alors si on souhaite plus d'infos justement sur ce Bibliobus, comment fait-on ?
Vous pouvez aller sur le site internet du Secours Populaire du Nord, ou alors sur le site la page Facebook du Bibliobus, qui est le Bibliobus du Secours Populaire, ou alors par mail le bibliobus@spfnord.fr.
Merci Clémence, à très bientôt.
Au revoir.
Fête de la Fraternité, c'est une semaine d'initiatives associatives pour lutter contre les discriminations et promouvoir le vivre ensemble sous toutes ses formes. Du 20 au 25 mars, dans tout le Pas-de-Calais, retrouvez de nombreuses actions qui rendent concrète la fraternité. Fête de la Fraternité avec la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais. Plus d'infos, www.laligue-npdc.org. Et soyez à l'écoute, votre radio vous propose une journée spéciale consacrée à l'événement le jeudi 23 mars dès 9h.
Alors, des réactions par rapport à ce qu'on vient d'entendre sur cette initiative de Bibliobus. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite réagir par rapport à cette idée.
Tout simplement dire c'est tout simplement dire que c'est une très bonne initiative, hein, ce qui prouve qu'il faut amener, dans les quartiers en grande difficulté, dans des lieux de vie comme les camps de Rome. La culture leur permettre d'avoir un certain nombre d'outils. Hein. Toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Hein, et je pense que le Secours Populaire fait un gros travail de ce côté-là. Il y a eu aussi une initiative, hein, Emmaüs faisait ça aussi, hein, en pied d'immeuble, hein, dans certains quartiers, où ils ramenaient aussi des livres et... ils amenaient un peu de leur propre culture, puisque les gens sont pas inculturés, hein. Quand on dit on ramène de la culture, faut faire attention aux propos qu'on peut tenir, et je me rattrape tout de suite, hein, en disant que ils ramènent leur propre culture pour partager, cette culture.
D'autres réactions par rapport à ça? François Moutier?
Je pense que c'est pas une question que de livres, en fait, c'est pas l'objet livre en fin de compte qu'il faut ramener, c'est simplement peut-être déjà rien que la rencontre, et effectivement s'intéresser déjà à l'autre dans ce qu'il est, dans ce qui le constitue, pour le permettre justement de peut-être écrire ou de s'écrire ou de se raconter. Je pense que c'est déjà très important, et là on est complètement dans des démarches d'éducation populaire, je pense que la Ligue de l'enseignement connaît très bien. Voilà, je pense que, bon, pour avoir, moi, participé à l'organisation du Salon du Livre d'Arras pendant pas mal d'années, c'était ça qui était important, et je pense qu'il faut aussi, je pense que là aussi, il y a une critique à faire à nos institutions, c'est qu'on a l'impression d'être... on est universel, nous. Hein, la France est universelle. Non, la France. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on n'a pas la culture. C'est pas notre culture qu'on doit imposer, mais simplement justement rencontrer l'autre dans sa culture, et pour justement faire, on appelle ça l'altérité, hein, c'est-à-dire qu'avec aussi notre culture, hein, aussi, et faire quelque chose de nouveau, quoi. Cette rencontre-là fait des étincelles et produit d'autres espaces et d'autres individus, et qui ont simplement le fruit de l'immigration. Quand on disait qu'on est à plusieurs générations maintenant, effectivement, ta fille est le fruit justement de plusieurs cultures, et il n'y en a pas une qui en vaut plus que l'autre. Je pense que dans l'intervention dans ce genre de projet, il faut toujours faire très attention à ne pas écraser l'autre. Souvent,
d'où la démarche du Secours Populaire qui est pas mal, justement, de pas. Qui est lucide, qui s'installe pas comme ça dans un campement comme ça peut des fois être mal fait, où là c'est justement s'appuyer sur des assos qui sont déjà en lien, et
elle avait beaucoup de prudence, oui.
Voilà, et ouais. C'est notamment c'est comme ça que,
bien sûr,
tu peux justement rentrer en contact avec les gens et pas t'écraser et s'imposer dans un campement, ça se fait pas, quoi. Enfin,
notion de fraternité et d'échange important.
Alors, on va parler à présent d'un autre cas, celui d'une discrimination liée à l'origine dans une école de Roubaix, une affaire qui est toujours en cours d'instruction judiciaire actuellement, et qui a été fortement médiatisée l'an dernier, mais qui remonte à mai 2020. 2014. Yanis Belkil, fils de Malika Belkil, scolarisé à l'époque à l'école Sainte-Bernadette de Roubaix, raconte à sa mère les brimades qu'il aurait subies de la part d'une enseignante de l'établissement. La suite, c'est Nassera Zaidi, ancienne militante du MRAP de Roubaix que Malika Belkil avait sollicité, qui nous l'explique.
Alors d'abord, je tiens évidemment à rendre honneur à ces mamans courage qui bataillent difficilement, mais malgré tout, qui sont debout pour donner de la dignité à leurs enfants et aussi dignité à cette cause-là qui est essentielle, parce qu'on a du mal à se rendre compte de la difficulté du combat, mais surtout on a du mal aussi à entendre cette évidence. Et moi je parle de dénégation volontaire, c'est-à-dire qu'en fait on nie, on crée un mur de silence autour de cette de ces violences faites aux familles, aux enfants, au sein de l'école, mais pas uniquement, ça a été dans le milieu du travail. Moi, j'ai été confrontée à des tas de situations inouïes. Et cette famille-là, en particulier cette maman, a bataillé parce que son fils, à un moment donné, a révélé une souffrance à son grand frère en lui avouant qu'il était prêt à mettre fin à ses jours parce que la violence orchestrée par une enseignante couverte par une directrice a été pour lui... d'une violence insupportable. Et cette violence se traduisait par des propos racistes, par des propos méprisants, humiliants, et des violences aussi physiques, ce qui a accompagné un an et demi de parcours. Cette maman a bataillé, a saisi le procureur, elle a d'abord tenté, en tous les cas, de porter plainte au sein de la police, qui a refusé sa plainte, et je peux vous garantir qu'au travers de différents dossiers, c'est récurrent, c'est fréquent. D'ailleurs, on avait tenté de travailler là-dessus avec un avocat stagiaire. On pourra en parler éventuellement à un autre temps. Elle a saisi le procureur de façon individuelle. Son affaire a été classée sans suite, ce qui est aussi très fréquent dans tous les dossiers que je suis. Et de plus, le procureur a requalifié les faits. C'est-à-dire que les faits étaient donc humiliation, maltraitance, harcèlement et propos racistes ont été requalifiés en injures. Et ça a été classé sans suite. D'où le fameux parcours du combattant dont je vous parlais. Et pourtant, cette maman est impressionnante. Elle est debout. Et donc, elle a sollicité tout le monde. On l'a rencontrée après cette procédure. Et donc, on a repris le dossier en cours. On a organisé une manifestation, on a rencontré la mairie de Roubaix, ce qui a été particulièrement difficile. Ça aussi, je peux vous garantir que ça, pour une famille seule, c'est un combat perdu d'avance. Même nous avons été confrontés à plus de 2 mois de bataille avant d'avoir un rendez-vous. Nous avons été reçus par l'adjointe à l'enseignement qui nous avait promis de rencontrer avec le maire. Et je peux vous garantir que depuis cette date, c'est-à-dire le 1er juillet, nous n'avons pas reçu d'éléments supplémentaires. Encore un mur de silence qu'on oppose à toutes ces victimes. Toutefois, on est toujours là, à batailler. Et donc, on a saisi à nouveau le juge d'instruction. Donc, cette affaire est en cours à la cour d'appel. Et d'autres familles sont aussi, en tous les cas, par notre intermédiaire, parce que c'est difficile pour ces familles d'y aller seules au front. Nous suivons donc d'autres familles et nous sommes en procédure aussi. Nous allons saisir aussi les procureurs. Mais voilà, je tiens à témoigner en fait de cette difficulté moi-même qui est à même de faire ce genre de combat. C'est inimaginable le nombre de moments difficiles à traverser, fragilité psychologique, des maladies. C'est des prises en charge médicales pour pratiquement toutes ces familles. C'est le silence parce que c'est pour eux un combat perdu d'avance. Donc moi qui porte ça, je peux vous garantir que c'est une énergie folle de chaque instant. Qui est épuisante, éprouvante et particulièrement difficile et qu'on n'est particulièrement pas aidé. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Donc, mais la bataille, en tous les cas, on la mène. Et l'idée, c'est que cette bataille serve à d'autres. Et qu'à un moment, il va falloir affronter cette réalité. Et que nous, en tous les cas, nous sommes partisans de devenir acteurs à nouveau. Et donc, d'affronter cette réalité qu'on veut, en tous les cas, nier.
Alors je rajoute quelques précisions hein, sur cette affaire. Il faut savoir que d'après la mère de Yanis, l'institutrice mise en cause n'aurait cessé donc durant l'année scolaire 2013-2014 d'humilier ou d'insulter Yanis devant ses camarades du fait de ses origines, avec des propos qui auraient été tenus par l'institutrice et qui ont été rapportés par le quotidien La Voix du Nord. Comme je cite, tu n'as pas intérêt de manquer le jour de Naïd. L'Aïd ne fait pas partie de mon calendrier. Vous allez égorger le mouton dans la baignoire. Entre autres, affirmations. À la suite de cela, Malika Belkil se serait entretenue à plusieurs reprises de manière houleuse avec la directrice de l'établissement, Madame Madame Thérèse Clé. Ensuite, Madame Belkhil a donc, comme l'a expliqué Nasser Azaidi, d'abord souhaité déposer plainte auprès du commissariat de police de Roubaix, qui a refusé d'enregistrer sa plainte. Suite à cela, elle a déposé plainte directement auprès du procureur de la République le 20 mai 2015, plainte pour insulte, harcèlement, maltraitance et violence. Cependant, le procureur a classé l'affaire sans suite le 26 avril 2016 et a requalifié les faits en menaces, chantage et injures publiques, ce qui dans les faits amènerait à une condamnation moins lourde. Suite à cela, Malika Belkhil s'est rapprochée du MRAP de Roubaix et s'en est donc suivie une médiatisation de cette affaire, notamment par le biais d'une manifestation à Roubaix le 7 mai 2016 qui a réuni une cinquantaine de personnes pour dénoncer le racisme qui aurait cours dans cette école. De son côté, l'école privée Sainte-Bernadette, par le biais de sa directrice, nie les faits, avance une punition de Yanis Belkhil pour des propos particulièrement grossiers à l'égard d'une caméra à la cantine de l'établissement. Pour leur part, le diocèse a soutenu l'équipe pédagogique de l'établissement. L'inspection académique n'aurait rien trouvé à redire sur l'enseignante ou sur la directrice. Un rassemblement de soutien à l'équipe pédagogique a même été organisé le 12 mai 2016 devant l'école à l'initiative de parents d'élèves. Cependant, Madame Belkhil a décidé de ne pas en rester là, comme vous avez pu l'entendre, et a donc fait appel auprès du doyen du juge d'instruction. L'instruction est en cours. De son côté, l'école Sainte-Bernadette, que nous avons bien sûr contactée, n'a pas souhaité s'exprimer sur cette affaire. Alors, ce qui frappe, que ces faits soient avérés ou non, c'est le refus de l'enregistrement de la plainte par le commissariat de police, pardon, et l'obligation pour la mère de famille de recourir elle-même à la saisie du procureur de la République. Mais ce n'est visiblement pas un cas isolé. Dans une question écrite de Hugues Portelli, sénateur du Val-d'Oise, au ministre de l'Intérieur en 2013, le sénateur s'étonne, je cite, que des justiciables se rendent au commissariat pour déposer plainte et qu'ils se voient refuser ce droit. Ce à quoi le ministère répond qu'en vertu de l'article 15.3 du Code de procédure pénale, il existe bel et bien une obligation légale de recevoir les plaintes, un droit réaffirmé dans la charte d'accueil du public et d'assistance aux victimes affichée dans l'ensemble des locaux de police et de gendarmerie. Le ministre nuance cependant sa réponse en ajoutant qu'exceptionnellement, il pourrait arriver que certaines personnes rencontrent des difficultés pour déposer plainte, comme cela a d'ailleurs été relevé par le défenseur des droits. Donc ça, c'est le ministre lui-même qui l'affirme. Ultime précision du ministère, en l'absence d'infraction ou si ces éléments constitutifs ne sont pas réunis, aucune plainte ne peut cependant être enregistrée, mais une main courante peut être faite et le procureur de la République peut être saisi, comme dans ce cas précis que nous évoquons aujourd'hui. Alors on en revient un petit peu à la même question que tout à l'heure. Est-ce que ces dénégations d'enregistrement de plaintes ou plus largement de ces dénégations de faits ne sont-elles pas problématiques dans notre République française ?
Alors, bon, moi, je me permets d'intervenir parce que j'ai donc rencontré cette maman au moment de ces difficultés. Et j'ai rencontré une maman qui était extrêmement blessée, notamment qui était complètement perdue aussi et qui savait plus vers qui se tourner, parce que tant bien que les travailleurs sociaux qui ont essayé aussi dans un premier temps du quartier à l'aider ont essayé de faire sans tellement connaître, sans savoir, étaient face effectivement à un cas, on a bien compris, extrêmement violent et particulier, qui est malheureusement répandu, pas ce type de forcément d'affaires, mais en tout cas on sait que on nous remonte pas mal de cas similaires où il y a des difficultés, où il y a des propos racistes qui sont aujourd'hui dans l'éducation nationale, où on constate ça, on récolte pas mal dans les quartiers, pas mal de personnes qui nous disent ça. Et cette dame, elle était, il y avait une deuxième violence, quoi. C'est-à-dire qu'on reconnaissait même pas, en fait, le fait que elle a été et son enfant avait été victime de quelque chose. Et donc là, le travail, notamment du MRAP et de tous les militants qui ont été à côté, c'était au moins déjà d'écouter, d'essayer de faire le tri, c'est-à-dire de hiérarchiser ce qui s'est passé chronologiquement. Et aussi, elle était toujours dans une justification, alors que il n'y avait pas besoin de se justifier auprès de nous. On prenait effectivement son témoignage comme une vérité. Et il faut savoir, et donc pour tous les auditeurs de Radio Plus, il faut savoir qu'effectivement le fait de déposer plainte au commissariat, bon nombre de personnes sont retrouvées vues soit refusées, ou soit des difficultés de le poser, ou soit humiliés dans le moment où ils l'ont déposé. Et donc effectivement le meilleur recours, et donc ce que je vous conseille si vous êtes victime à un moment donné de discrimination ou vous avez besoin de porter plainte, c'est de tout de suite saisir effectivement le procureur, donc de l'écrire avec un accusé réception qui permettra automatiquement de mettre en place une procédure sans forcément passer par voilà. Donc c'est un moyen de contourner. C'est vrai que c'est dommage qu'aujourd'hui effectivement on ne prenne pas en compte ces victimes là et donc parce que c'est un droit de porter plainte contre quelqu'un, et aujourd'hui effectivement il y a des difficultés et de plus en plus de personnes nous remontent ça.
Est-ce qu'une des solutions ce serait une meilleure formation, une meilleure sensibilisation des personnes recevant ces publics?
Non, je pense qu'ils sont formés. Il n'y a pas une meilleure formation. Il suffit d'appliquer la loi. Je viens pour porter plainte. On doit enregistrer ma plainte. C'est inscrit. C'est dans les codes. On va pas encore une énième fois leur trouver des excuses. Il faut les former parce qu'ils savent pas recevoir du public.
Faut les déformer alors.
Oui, faut plutôt les déformer.
Peut-être qu'ils sont formés justement à avoir ce comportement.
À faire un tri.
Voilà. Oui. C'est scandaleux, quoi. Voilà.
Ce sont des cas que vous rencontrez au quotidien. Des personnes qui justement vous rapportent ce genre de problème.
Alors, faut pas pointer du doigt spécifiquement les commissariats. Hein. Il faut être très clair. Effectivement, c'est déjà difficile. Aussi, oui. C'est difficile déjà pour un individu d'aller porter plainte. Ça, c'est une réalité. Peu importe la plainte, c'est déjà difficile. Alors, encore plus quand on a été discriminé. De dire, déjà, arriver devant une personne, dire j'ai été discriminé, on connaît pas bien le droit. Et c'est vrai que cette maman, elle est courageuse. C'est une maman courage qui veut faire reconnaître qu'à un moment donné, c'est elle la victime. C'est son fils la victime. Hein, c'est pas l'école. Hein. L'école, c'est l'école de la République. Elle doit faire en sorte de protéger son fils, bien au contraire. Mais il y a une réalité. Il y a une réalité de comportement des individus. Les individus oublient. Et peut-être que certains enseignants oublient que quand ils rentrent dans l'enceinte de leur établissement, ce sont plus des individus comme les autres. Ils sont là pour représenter la République, une et indivisible. Et le même traitement pour tout le monde. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. C'est-à-dire que les personnes sont... Il y a une espèce de désinhibition de la situation et ils arrivent et se comportent comme ils se comportent à la maison. Et c'est pas ça qu'on attend des individus. Alors, sur le racisme, on peut aller plus loin. Reprenons sur les stades de football où on jette des bananes, où on insulte ces black blambeurs, je veux dire, qui sont sur les stades, et où on entend certains journalistes ou commentateurs dire « Oh oui, mais bon, c'est un groupe d'ultra, c'est pas grave, etc. » Et on entre dans une espèce de normalité de la discrimination et du racisme en disant bon c'est pas grave.
Il y a même des propos qui sont pris à la légère maintenant. Je vais prendre le cas, ça va peut-être bouleverser l'affaire Théo, le flic qui a dit Bamboula
c'est acceptable.
Bah après c'est la porte ouverte à
toutes les fenêtres.
C'est ce que je voulais dire monsieur.
Et dans ce cas-là aussi, encore une fois, il y a eu aussi, que ce soit pour les Traoré aussi, l'affaire Traoré, où effectivement ils sont venus déposer plainte, ou en tout cas auprès des personnes de police. Et là, il y a eu tout un enfer judiciaire, de traitements particuliers qui ont été faits à la famille Traoré, qui a été tout simplement hallucinante, quoi. Et donc, et c'est pas là, c'est sur des affaires de violence policière, mais effectivement, il y a d'autres aussi. Cas de discrimination où c'est pareil, c'est pas forcément reçu.
Qui sont vachement aussi remontés sur les questions, les victimes de viol aussi, qui sont souvent mises en cause.
Ça c'est bien pire en plus.
Tout à fait. Alors, ce qu'il faut pas oublier, hein, c'est ce matin, j'entendais ça à la radio et ça doit être sur France Info, hein, pour la cité, hein, il y a un petit enfant de 10 ans, hein, malmené, discriminé. Depuis un certain nombre d'années, hein, qui a changé d'établissement et qui, pareil, hein, j'ai oublié le nom de la ville et de l'établissement, qui s'est fait agresser, qu'on traitait de bamboula, on lui a ramené des bananes, etc. Ça devient grave parce que Il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Et moi, je lance un appel, hein, et je voudrais vraiment que vos auditeurs puissent entendre ça et répéter ça. Faites attention au discours aujourd'hui, parce que à chaque présidentielle, on ressort des monstres, on ressort des peurs, on met en affrontation, en confrontation, je dirais, les personnes.
On crée un climat de peur.
Et de terreur qui est criminel, hein, je vais le dire comme ça, qui est criminel, parce que on a connu, vous savez, je disais, hein, j'ai 55 ans, moi j'ai connu dans mon jeune temps, je devais avoir 13-14 ans, des ratonnades. Oui, j'ai connu sur Roubaix, puisque je vivais sur Roubaix à l'époque, les chevaliers de Roubaix, où il fallait faire attention, après 20 heures, si vous étiez dans la rue, de pas vous faire tabasser, etc. Donc, tout ce pan de terreur, j'ai cru qu'à un moment donné, ça allait disparaître. Ça y est, c'est bon. On revient.
On l'a vécu un peu sur les Bercourissa avec les... si je peux dire ça, les skinheads, nous, des skinheads d'un certain village que je vais pas nommer, quand ils nous voyaient sur la route, ils nous jetaient des canettes et tout ce qui s'en suit, quoi.
Et si vous suivez un petit peu sur Lyon, il y a encore beaucoup de, actuellement dans le vieux Lyon, il y a des cas tous les mois de ratonnades, de bandes armées qui se baladent comme ça, très présents là-bas.
Ah, il y en a dans pas mal de villes en France, ouais, malheureusement, une recrudescence effectivement de ces actes-là. Et en plus, Lyon, c'est les Minguettes aussi, c'est là où est partie aussi quand même la marche pour l'égalité, enfin en tout cas.
Convergence 84.
Est-ce, dernière question, une question de représentativité des minorités au sein des institutions? Est-ce que ça peut jouer?
Ça en fait partie. Ça en fait partie, mais ça ne sera pas suffisant. Ça en fait partie, ce n'est pas suffisant. Il y a des députés à l'Assemblée nationale d'origine diverse, etc. Je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une prise en main de manière générale de la société. La société, elle est malade. Et c'est une vraie réalité, parce que quand on voit tous les combats sur l'intergénérationnel, sur le vivre ensemble, etc., sur les marches, on parlait de la marche des beurs, etc. Moi j'ai connu une compagnie qui s'appelait Black Blamber, qui faisait un gros truc sur Paris de danse hip-hop, etc., qui rassemblait un certain nombre de mouvements, etc. Et pourtant on en est encore aujourd'hui, je suis désolé, si le FN est à plus de 26% aujourd'hui, c'est pas un hasard non plus, mais c'est le hasard de quoi? C'est le hasard aussi d'un défaut des politiques qui ont géré, la France de manière un petit peu à la légère. Et ça, c'est vraiment dramatique.
Et ça a généré pas mal de dérives, hein, parce que bon, j'évoquais tout à l'heure on peut pas traiter les luttes contre les discriminations sans y associer, tout au moins pour la formation, sans y associer la radicalisation.
Tout à fait.
Donc voilà, oui, effectivement, on a l'impression de faire des flashbacks sur des situations. Qui ne devrait plus aujourd'hui exister. On a mis suffisamment de garde-fous. Et vous demandiez tout à l'heure la représentativité au niveau des institutions. Oui, je suis d'accord avec ça. Dit, ce n'est pas suffisant. Au niveau, même au niveau de des fonctionnaires, etc. Je veux dire, il y a des choses effectivement à revoir. Et j'aurais envie de dire. Doit-on être différent face à l'indifférence ou indifférent face à la différence? Voilà.
Très bien. Mais jusqu'à quand on doit se battre? Jusqu'à quand? Première génération sont battues, deuxième, troisième, après les enfants, tes petits-enfants, si je peux me permettre. Oui. Ils sont français, ils connaissent, peut-être par rapport à toi, ils connaissent un peu leur histoire du Maghreb, mais jusque quand? Les enfants vont se battre pour dire qu'on est français ou polonais ou algérien ou citoyen du monde. C'est juste ça. Nos parents sont venus, on va pas se voiler la face, ils sont venus
Déjà, ils sont venus pendant la guerre pour libérer la France. Après, ils l'ont libéré, après, ils l'ont reconstruit. Après, la deuxième génération sont venus, ils ont travaillé. C'est devenu des cerveaux. Ils ont eu des enfants. Et maintenant, les enfants, ils doivent se battre pour dire qu'ils sont français, alors que qui a construit la France, s'il vous plaît? Qui a construit la France, s'il vous plaît? Moi, je suis français, je suis algérien, je suis polonais, je suis portugais, je suis italien, je suis citoyen du monde. Je veux juste que les êtres humains vivent ensemble, c'est tout, stop.
Eh bien, ce sera le mot de la fin de ce débat en tous les cas. Merci à tous les cinq d'avoir participé à ce débat. Dans quelques instants, on va parler de l'association des mineurs marocains. On se retrouve d'ici quelques minutes.
J'ai pieds nus dans la ville, en sandales dans la jungle. Tu sais, le mélange est facile, il suffit d'être simple. Je suis une église, une rencontre insolite. Je suis fier d'être métisse, j'ai la chance de choisir. Je suis métisse, un mélange de couleurs. Parfois je me perds au milieu des deux rives. Si j'ai besoin de repères, mes racines me guident. Un sentiment basique, un élan, une chance. Une si belle mosaïque, et dans mon cœur ça danse.
Je suis la preuve vivante que tous les humains sont les mêmes. Je suis l'enfant d'Adam et Ève, je suis un rêve comme Ismaël en Israël. Renie ta haine et fais sourire les anges. Mélange le Gange et la Tamise, métisse des Indes et du Brésil. On est métis comme Chadé, Bob Marley. Tu peux te marrer ou bien te barrer, on peut en parler. Multicolore, anticonard et tous mes colocataires caracole en tête pour des idées d'un monde plus métissé.
Métis, un mélange de couleurs.
Deux êtres différents qui se mélangent et ne font qu'un.
Je suis métisse.
Deux cultures, deux passés qui se rassemblent et ne font qu'un.
Je suis métisse.
Deux façons de penser qui se rassemblent pour ne faire qu'un.
Je suis métisse.
Pas besoin de voyager pour dire que je viens de loin.
De Fraternité, émission spéciale de Radio Plus le jeudi 23 mars de 9h à 16h. Au programme, débat, initiative associative avec de nombreux invités pour évoquer les thématiques de discrimination, d'intergénération, de développement durable, de démocratie participative ou encore de responsabilisation des jeunes. Une émission en public en direct des studios de Radio Plus, 6 rue Coué à Douvrin. Un rendez-vous en partenariat avec la Ligue de l'Enseignement le jeudi 23 mars de 9h à 16h dans le cadre de la semaine Fête de la Fraternité. Plus d'infos, www.radioplus.fr et www.laligue-npdc.org.
Et nous sommes toujours dans cette émission Plus de Fraternité sur Radio Plus, 10h passées de 34 minutes. Nous continuons de parler de lutte contre les discriminations avec le cas des mineurs marocain, Julien.
Tout à fait, Jean-Philippe, et on va voir, et on s'en est rendu compte, nous, en préparant Martine et moi à cette interview, qu'il y a beaucoup de combats à mener pour ces mineurs marocains. Et pour parler de cette association et de ces luttes, nous recevons deux invités, Mohamed et Raes. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Alors, vous êtes membre fondateur de cette association, et vous êtes vous-même ancien mineur marocain. Et à vos côtés, il y a le coordinateur de cette association, Sébastien Alberger. Bonjour.
Bonjour.
Alors, monsieur RAS, en quelques mots, votre parcours, vous êtes originaire du Maroc et vous êtes en France depuis 44 ans, c'est bien ça?
Oui.
Alors, racontez-nous votre arrivée en France, dans quelles conditions s'est-elle faite et quel était votre parcours en tant que mineur?
Oui, j'ai rentré en France le 4 mars 1974 et puis je vais venir dans le cantonnement de mineurs, comme un mineur, et puis j'ai travaillé au fond du mine. Avec un contrat de, je pense, de 14 mois jusqu'à l'année 80. L'année 80, quand la Lorraine, ils ont fait un greffe de type de ce contrat, et puis et ils ont venu chez nous pour nous aussi arrêter le travail, pour nous aussi demander un statut de mineur comme tous les mineurs. Depuis 80, on a reçu un statut, et puis la plupart des Marocains, ils ont commencé à faire la demande pour leur enfant qui rentre en France. Ça dure seulement 5 ans, après, on a reçu que les mines, elles vont fermer. Ça veut dire, on a planté une plante dans le jardin. Quand elle commence à faire les fruits, et puis on a constaté comme cet arbre est coupé. Et puis en l'année 87, on a démarré un greffe de 2 mois qui le permettre, parce que avant la greffe, on a reçu une lettre comme quoi il faut rentrer au Maroc avec un prime. Chacun, ça dépend. Moi, j'ai reçu un lettre à l'époque, je reçois 160 000 francs à l'époque pour rentrer au Maroc. Et puis, il y en a la plupart qui en a 4 enfants, 5 enfants, et puis ils ont été à l'école ici. Et puis même si elles rentrent en France, au Maroc, il y en a la plupart à l'époque qui n'ont pas de maison. Ils restent avec les parents, et puis dans les montagnes, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas d'école française. Ça veut dire que ça se trouve comme il est déchiré. On a démarré à l'époque 2 mois de greffe. Seulement, on a reçu ça veut dire, on a reçu quand même un petit peu. Et puis, ils ont partagé les Marocains en 3 fois. Ça veut dire, il y en a des gens qui rentrent au congé charbonnage, il y en a des gens qui rentrent à la retraite anticipée. Et puis, il y en a des gens qui sont partis aux conversions comme moi. Alors, le conversion, c'est quoi? Il faut signer en demande, et puis dans la demande, il y en a au moins 20 feuilles, et puis on ne sait pas écrire ni parler français beaucoup, et puis à la fin, il faut signer à la fin, comme quoi vous êtes d'accord, mais on n'a pas personne qui explique cette demande. Moi, je l'ai signé, et puis j'ai parti à côté d'Avignon, seulement un mois après, que je sois reçu une feuille comme quoi vous avez reçu, touché un prime de conversion et puis l'arrachat des avantages en nature je constate comme quoi je vais payer le loyer. M'en retourner à la maison parce que j'ai laissé ma femme ici dans le nord, j'ai trouvé une lettre commandée de ce genre pas. Il m'a dit il faut commencer à payer le loyer. J'ai dit comment? Il m'a dit vous avez touché les primes. Le prime, moi, je reçois 170 000. Il y en a 80 000, 40 000 de chauffage et 40 000 de la maison. Et puis, presque 50% le chauffage et la maison. Et le reste, c'est le prix de licenciement. Ça, c'est le prix de licenciement. Et puis, j'arrivais pas à signer avec ce genre pas, ce type de demande. Après, chaque semaine, je monte. J'ai trouvé une lettre commandée. Chaque mois, je monte, et au moins 4 lettres commandées, j'ai reçu. Après l'époque, seulement j'ai dit je ne casse pas la tête, parce que quand je venais samedi dimanche pour rester avec ma femme et mes femmes, chaque fois j'ai trouvé le commandé, ça veut dire je ne suis pas à l'aise. J'ai été saigné, et puis j'ai écrit à l'époque, j'ai écrit à l'NGDM, j'ai dit moi je demande ma maison, moi je n'ai pas vendu ma maison.
Alors, la NGDM, hein, pour préciser hein, aux auditeurs, c'est l'Association Nationale des Garanties
voilà,
des Droits
oui,
des Mineurs,
oui.
ce qui correspond en fait aux ex-houillères.
Oui. À l'époque, ouais. C'est l'Association des Garanties des Mineurs, à l'époque. Maintenant, ça, c'est la GDM. Il m'a dit, non, bah, vous avez signé. J'ai dit, j'ai signé quoi? Il m'a dit, vous avez signé comme quoi vous avez vendu tout. Après, c'est vrai, je n'ai pas d'autres moyens. Et puis j'ai travaillé au moins 1000 km de la maison. Et puis quand je monte seulement une fois par 15 jours, parce que je n'ai pas le moyen pour tourner chaque semaine à ma maison. J'ai payé le loyer ici, puis là-bas c'est une braquement, c'est l'entreprise. Après, à l'époque, j'ai payé le loyer jusqu'en 92. On a quand même. Était voir un avocat et puis on a donné le dossier pour demander la gratuité du choix du logement.
Alors et en fait, pour bien expliquer hein, aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent, c'est-à-dire que votre association a lutté pendant de nombreuses années pour l'obtention en fait des mêmes droits que ceux des autres mineurs, hein, notamment ceux qui étaient aussi d'origine étrangère comme vous, et à qui on accordait donc, par exemple, le logement gratuit à vie, alors que vous, sous prétexte de votre nationalité marocaine, on vous a refusé ces droits. Hein.
Oui, non. Oui. C'est vrai, grâce à l'association. C'est vrai qu'on...
Alors,
Sébastien Berger.
C'est important d'amener une précision.
Oui.
1980, l'obtention du statut du mineur, c'est pour eux l'idée qu'ils sont comme tous les autres mineurs, qu'ils soient étrangers ou pas étrangers. Donc ils bénéficient, tant qu'ils restent à la mine, de ces avantages en nature. Au moment de la reconversion, ce qu'il explique très bien avec ses mots, c'est qu'on lui fait signer une reconversion qui inclut une prime, qui inclut dedans, de manière très discrète, la perte de ses avantages en nature.
D'accord, donc ce que vous me dites, c'est qu'en fait, ces avantages qui étaient liés au statut de mineur, ils existaient auparavant, et donc c'était cet avenant en fait qui a été...
Quand on parle de 40 000, c'est une somme totalement dérisoire. Hein. Vous imaginez bien un droit à vie quand on a à l'époque une petite quarantaine d'années. Donc ils ont fait une bonne affaire. Pour bien comprendre ce schéma, il faut se rappeler que les houillères ont fait venir cette dernière vague migratoire avec cette ambition de fermer les mines. Donc les mineurs marocains ont cette spécificité, c'est qu'ils étaient en charge de fermer les mines et de rentrer chez eux sans rien demander. Et voilà. Donc quand ils ont eu ce plan social à la fermeture des mines, donc ils ont leurs avantages en nature, très bien. La fermeture, la mine ferme, vous repartez tous chez vous. C'était un peu le fantasme, puisque c'est un fantasme, hein, puisque tout sociologue, tout scientifique va pouvoir vous le témoigner. À partir du moment où vous déplacez une population, même si elle est attachée à son territoire, arrive un certain temps, elle y reste, elle s'y installe. C'était le cas des mineurs marocains, comme d'autres avant.
Martine, tu voulais poser une question justement pour recontextualiser un petit peu cette vague d'immigration aussi.
Justement, bon, donc on résume, on est allé vous chercher, la France est allée vous chercher, comme le disait Sébastien, on est allé vous chercher pour venir travailler, on vous a fait signer un contrat de 14 mois. Alors à cette époque-là, ce qui est important, c'est que vous ne maîtrisiez absolument pas la langue française, et donc à partir de là, on a pu vous faire signer un petit peu n'importe quoi, je dirais.
Complètement.
Pour 14, au bout de 14 mois, ce qu'a voulu, on ne sait pas bien si ce sont les houillères, la direction des houillères ou l'État français, on a voulu vous dire merci, vous retournez chez vous, merci pour ce que vous avez fait. Alors sans indemnité, sans prendre en considération, je dirais, le regroupement familial, et puis bon, bah, on vous a on voulait vous réexpédier chez vous. C'est bien ça, j'ai bien tout compris.
On peut même aller plus loin pour marquer un peu aussi la conscience des gens, puisque c'est vrai que le régime minier est un régime spécifique. Donc déjà, vous expliquer sur ce sujet-là rend les choses complexes, puisqu'on n'est pas tous liés à ce régime-là. Donc c'est quelque chose qu'il faut être en capacité d'expliquer. Mais ces mineurs ont été cherchés dans le sud du Maroc. Hein. Donc on n'a pas été chercher des gens à Casa, on n'a pas été chercher des gens à Rabat, ni même à Agadir. On a été dans les montagnes.
Dans la profonde campagne, on va dire, voilà. Montagne, dans les montagnes.
L'objectif, c'était de ne pas savoir lire, ne pas savoir écrire. On savait que les Berbères étaient courageux et tenaces, petits, qu'ils étaient non scolarisés, qu'ils habitaient dans des villages reculés avec très peu d'accès au savoir. Forcément, les parents étaient quoi ? Bergers, agriculteurs. Donc, ils ont chargé un militaire, Félix Mora, ancien militaire, de recruter cette main-d'œuvre. C'est lui qui a recruté 80 000 mineurs marocains. Je ne sais pas si vous imaginez ce négrier, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, qui faisait sa fierté d'avoir serré la main à des millions de Marocains. Il faut savoir qu'ils étaient des milliers, puisqu'on va là où il n'y a rien. Donc forcément, les gens ont envie de s'en sortir, on ne va pas leur reprocher ça. Donc il y a du monde au portillon. Et pour faire le tri, ils ont mis un système très simple. On tamponne. Un tampon vert à même la peau, sur le torse. Prochaine étape, un tampon rouge, on est recalé. On sait de sources sûres maintenant, c'est avéré par rapport aux actions qu'on mène depuis plus de 30 ans, que le principe c'était d'être petit. Moi j'ai un souvenir d'un mineur qui nous racontait que Félix Mora serrait la main et qui pensait qu'il lui disait bonjour. Il lui disait pas bonjour. Il retournait sa main et regardait s'il avait des mains de travailleur.
D'accord.
Donc on a été chercher du bétail. Et ça, c'est important parce que toutes les vagues migratoires ont, par exemple, ce vécu de quitter sa famille, de quitter sa culture. Il y a une souffrance déjà qui est assez forte. Cette spécificité, elle est encore renforcée par ces méthodes de recrutement qui sont complètement catastrophiques et qui, encore aujourd'hui, dans les familles, est porteur de certains traumatismes. Même si on n'en parle pas, les souffrances se transfèrent de génération en génération.
Et d'ailleurs, vous nous expliquiez également, en préparant cette interview, que si les mineurs marocains ont été recrutés effectivement dans les montagnes et dans les conditions que vous venez de nous expliquer, ils ont été dispatchés sur les différents pôles miniers, dans notre région bien sûr, et puis également en Lorraine. Mais le problème des mineurs que rencontrent les mineurs marocains du Nord-Pas-de-Calais est un problème spécifique également, avec cette déconsidération totale de l'État français. Expliquez-nous.
Alors, pour comprendre en raccourci, hein, c'est un peu la patate chaude. Quoi. On sait à un moment donné qu'on va les mettre 12 dehors, et puis à un moment donné on se rend compte qu'on doit les garder. Donc vite faut faire un plan social, vite faut faire semblant de les intégrer. Donc on force les gens à signer des reconversions bidons. Hein, faut savoir qu'à l'époque déjà il y avait 8% de chômage. Faut savoir que la mine payait au moment de la reconversion les deux premières années auprès de l'entreprise. Donc les Marocains, je peux vous donner des chiffres qui sont avérés puisqu'on est en train d'établir un rapport, plus de 65% d'entre eux sont partis hors région. 80% d'entre eux sont partis dans le bâtiment. La condition, c'est-à-dire que la mine, vous savez tous que ça abîme, les conditions de santé n'ont pas été prises en compte pour certains. Il y avait vraiment, c'était la certitude pour beaucoup que la reconversion ne pouvait être qu'un échec. Et c'est ce qui je me le dis souvent, c'est-à-dire que finalement on les a parqués dans les minima sociaux. Et aujourd'hui, quand on est, qui nous, on lutte sur les questions des préjugés, quand on voit comment l'État français les a remerciés, vous savez, il y a une chose très simple, la mine payait les loyers. Vous signez la reconversion, vous êtes amené à payer un loyer. Donc pour vous faire signer, vous savez ce qu'on va vous dire, un cliché très simple. Ne t'inquiète pas, c'est plus la mine qui paye ton loyer, c'est la CAF. Mais c'est pareil, le mineur qui venait du fin fond de Ouarzazate, qui ne savait pas lire, pas écrire, lui, il a juste compris, je ne paierai toujours pas le loyer. Enfin, il s'est fait embobiner. Là où je peux aussi, sur la question de discrimination, parce que c'est le sujet aujourd'hui, un exemple très simple et très récent, parce que c'est une histoire récente, j'aime bien le rappeler, mais elle est encore plus récente, puisqu'on a gagné en 2013 à Douai.
Le 27 février 2013.
Voilà, donc le jugement a été rendu définitif, mais ça a été une lutte qui a démarré en 2008, puisqu'on a saisi la HALDE. Donc les mineurs qui n'avaient pas bénéficié d'une reconversion, donc qui sont toujours restés à la mine, hein, les mineurs marocains, avaient leur maison à titre gratuit et ont voulu, comme les autres, et c'est là où je me permets de rectifier le tir, hein, ils avaient les avantages en nature, où ils ont été discriminés, c'est sur la possibilité de transformer ce droit en vie en un capital, qui bien souvent leur permettait d'accéder à la propriété. Donc les mineurs ont fait des courriers, notamment un, notre cher étant président, qui a eu une réponse en 2008 tout à fait aberrante, où on leur dit qu'en raison de sa nationalité, il ne peut pas prétendre à ce droit. Donc là, j'alerte tous les auditeurs, c'est un cas d'école sur la question des discriminations. On est sur une discrimination directe qui est affichée. Donc ça a été très facile de se mettre en ordre de bataille. On a saisi la HAL qui a fait des recommandations, la NGDM, donc qui est une institution, une administration publique qui gère la prémine, donc la liquidation des droits des mineurs, mais c'est l'État, refuse d'admettre ce et se protège en disant mais nous on fait que appliquer le plan social. J'ai pas vu dans le plan social que les Marocains étaient différents que les autres et qu'ils n'avaient pas le droit. Et c'est ça qui m'inquiète, et j'aimerais juste vous faire cette remarque-là. Ça m'inquiète beaucoup quand même que des décennies après, on transfère ce fantasme de dire, hors des textes, que les Marocains sont à traiter différemment.
Vous dites que ça a été facile, mais vous êtes quand même allé en cassation.
Ça a été facile par rapport à toutes les luttes qu'on mène actuellement. On est sur beaucoup de chantiers. La manipulation, le fait de pas avoir accès à l'écrit et à la lecture. Il y a des gens, ils se sont rendus compte en 2009, monsieur, que ils allaient pas retrouver leurs avantages en nature. C'est-à-dire qu'ils ont vécu entre 90 et 2009 avec ce fantasme qu'une fois à l'âge de la retraite, ils allaient retrouver leurs droits. Sauf que, parce qu'ils ont été recrutés, ils sont arrivés en 74, 75, 76, jusqu'à 77. Même si en France, les robinets étaient fermés avec Giscard en 74, la mine avait encore cette capacité à faire venir des travailleurs immigrés jusqu'en 77. Donc c'est des mineurs arrivés en 90 qui étaient jeunes et qui sont arrivés à l'âge de la retraite en 2007, 2008, voire 2010 pour certains. Donc il y a eu des mouvements de contestation, des prises de conscience qui sont arrivées à ce moment-là. Et là, pour faire valoir les droits des personnes et recommettre la discrimination, c'est très compliqué. Pour ça que je dis que ce cas-là, il est facile, parce qu'il suffit de montrer le courrier pour être scandalisé, déjà.
Martine.
Alors, justement, vous parlez, on parle aujourd'hui de discrimination, hein. C'est le thème de la journée. Comment expliquez-vous qu'il y ait une discrimination particulière pour les personnes d'origine marocaine, parce que il y a eu des vagues d'immigration comme vague polonaise, il y a eu des portugais, il y a eu différents. Alors pourquoi justement pourquoi cette discrimination particulière pour les gens, les Marocains?
Madame, j'ai pas la réponse. Martine, excusez-moi.
Oui, mais sinon elle va râler.
Simple, ouais, alors, j'ai pas envie.
Il nous reste deux petites minutes.
Simplement, je pense que c'est la culture du rejet, madame. Ça fait depuis 2009 que je travaille sur ces questions-là. J'ai rencontré au bas mot, je sais pas, j'ai fait 800 dossiers de famille, et on en a encore bien plus, mais.
Il y en a encore en cours, hein.
Oui, il y en a encore en cours, mais je veux dire, voilà, j'étais à la rencontre des sémineurs, j'ai vu leur parcours, je les ai aidés dans leur démarche d'accès au droit. Pourquoi, je ne sais pas. Il y a un vrai problème avec les Marocains. C'est-à-dire que leurs mœurs, leurs différences semblent être un obstacle à cette capacité à vivre ensemble. Alors c'est vrai que les mineurs nous le disent, au fond de la mine, il y avait de la solidarité. On sait que les Polonais, les Italiens, tout le monde a souffert. Et ça, nous, on est les premiers à le dire. On veut juste démontrer que les Marocains ont des spécificités qui sont relativement inquiétantes, notamment dans l'époque actuelle dans laquelle on vit, puisque leurs enfants ont du mal aujourd'hui à exister et à se sentir français aussi.
Et le débat se prolonge dans quelques minutes sur les ondes de Radio Plus à partir de 11h. Sébastien Alberger et Mohamed Eraes de l'Association des mineurs marocains du Nord-Pas-de-Calais sont toujours avec nous, et on parlera particulièrement à partir de 11h des combats en cours de l'association.
Gaffe à la connerie de tous ces grands. Maintenant que je le suis, je suis tellement con que je presse mon temps comme une orange. J'aurais voulu revoir grand-père pour qu'il me raconte une belle histoire. J'aurais voulu revoir grand-père, y'a plus de lumière et je suis dans le noir. D'un coup j'entends le brigadier qui m'interpelle dans ma vieux sac. Le dos au mur, j'étais bloqué, c'était le Corse. Patron du sac, il me dit passe tout, je lui dis passe quoi, il me dit le tout, je lui dis que j'ai rien, il me dit pognon, je lui dis font boum, je lui dis glal, j'ai rien, il me dit au boss, je lui dis pourquoi, elle m'a frappé comme un maquereau, j'ai fait des yeux de merlan frit et j'ai filé.